Il est 8h.
On va voir des améliorations, mais ça va nous prendre peut-être 15 jours avant d'avoir des chiffres vraiment établis.
Restez chez vous et restez patient. Le recul de l'épidémie grâce au confinement demande encore du temps. Les masques et équipements médicaux qui nous arrivent de Chine par les airs pourraient-ils être made in France en mobilisant toute l'industrie? C'est le point de vue d'un urgentiste à qui nous passerons un coup de fil. 2500 marchés alimentaires vont rouvrir. Soulagement des producteurs qui ne savaient plus quoi faire de leurs fruits, légumes, charcuteries et fromages.
Si on n'était pas dans cette crise aussi dramatique que celle que l'on vit, je sauterais de joie.
Autre secteur en péril, l'aérien. Orly est mis sous cloche ce soir. Aéroport de Paris annonce sur Europe 1 un plongeon d'1 milliard d'euros de ses revenus. Nous verrons comment Air France peut être sauvée. Et puis, téléphone, tablette et ordinateur sont nos meilleurs amis en ce moment, mais précisément, les cyberattaques sont en plein boom, venues notamment de la Chine.
Le but, c'est de créer une surcrise à la crise déjà existante. Donc, il y a plein d'attaques possibles qui peuvent avoir lieu et le télétravail peut être un accès.
Et à 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée de Corse. Nous étions par exemple en Guadeloupe dans le journal de 7h. La question des territoires commence à se poser dans cette crise du coronavirus. Vous allez dialoguer avec lui à partir de 8h30. Vos questions, c'est maintenant le 3921 ou par écrit sur le hashtag Radio Ouverte. Il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Souvenez-vous, il y a 2 semaines, à cette heure-ci, nous pouvions encore, pour quelques heures, sortir de chez nous sans limite de temps et sans remplir un formulaire. Le confinement, sous peine d'amende, a vidé nos rues et cette première quatorzaine nationale n'est qu'un début.
Le nombre de morts annoncés chaque soir semblait stagner depuis jeudi dernier, mais il était hier de nouveau en nette hausse en France. 418 malades ont succombé en 24 heures. Théo Manval, les premiers effets positifs de ce confinement, on doit encore attendre pour les voir.
Eh oui, parce que nous sommes confinés depuis 14 jours, ce qui est aussi la durée maximale estimée de contagiosité du virus. Donc ça n'est qu'à partir de ce matin qu'on peut dire avec certitude que les personnes nouvellement contaminées l'ont été après la mise en œuvre du confinement. Jean-Stéphane Dersin est mathématicien, chercheur au CNRS, spécialiste en modélisation des épidémies.
Ce qui va se passer, c'est qu'en plus, le confinement, il a été relativement progressif, c'est-à-dire qu'on pense qu'au début, il a été moins respecté qu'il ne l'a été par la suite. Donc on va voir des améliorations, mais ça va nous prendre peut-être 15 jours avant d'avoir des chiffres vraiment établis.
2 semaines encore, donc, à partir d'aujourd'hui. Et les épidémiologistes ne vont pas scruter que le nombre de cas officiellement détectés. Ce n'est pas l'indicateur le plus fiable, explique l'infectiologue François Bricaire.
Le nombre de cas, comme on ne sait pas combien de personnes sont effectivement porteuses de virus, c'est bien difficile de savoir de combien on va diminuer. Ce qu'on peut vraiment apprécier en termes chiffrés, c'est le nombre de morts et aussi le nombre d'admissions en réanimation.
Et pour l'instant, ces admissions augmentent encore de 7 à 15% par jour en Île-de-France. Une hausse qui ralentit un peu dans le Grand Est, mais qui continue de se poursuivre.
Les précisions de Théo Manval. Nouvelle visite de terrain pour Emmanuel Macron aujourd'hui dans une usine de masques du groupe Colmy Open dans le Maine-et-Loire. C'est le plus gros des 4 fabricants français. Le site tourne aujourd'hui 24-24 et a recruté 35 salariés en CDD. Par ailleurs, hier, 8,5 millions de masques sont arrivés dans un nouvel avion venant de Chine.
Et nous sommes en direct avec Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France et délégué national CGT. Bonjour Christophe Prudhomme.
Bonjour.
Alors quand on écoute le dispositif de sécurité ou encore la logistique pour importer 8,5 millions de masques depuis la Chine alors qu'on en commande 1 milliard, ça vous rassure? Vous vous dites qu'on a pris les choses en main?
Non, absolument pas. Nous sommes un certain nombre à avoir alerté depuis des années sur le fait que nous massacrions notre outil productif, que ce soit sur les matériels médicaux. Vous voyez, si on manque de respirateurs, c'est parce qu'on n'a plus d'usine, qu'on a tout vendu à l'étranger. Et que quand on vend une entreprise performante en France, eh bien, les vampires pillent les brevets et ferment l'usine en France et partent à l'étranger. C'est la même chose sur les masques, c'est la même chose sur le médicament, vous comprenez. Et nous sommes très nombreux à l'avoir dénoncé et on n'a pas été entendus. Et le retard pris à mettre l'ensemble de l'outil de production français sur les priorités, à avoir maintenu le fait que des entreprises comme Amazon continuent à livrer des ouvrages, des rasoirs ou je ne sais pas trop quoi, c'est quand même lamentable.
Vous dites
aujourd'hui
que toutes les industries qui tournent aujourd'hui devraient être mobilisées, réquisitionnées pour produire ces équipements médicaux?
Bien sûr, vous comprenez. C'est quand même catastrophique.
On est capable?
Mais écoutez, on a vu que sur la base du volontariat, de très grandes entreprises comme LVMH étaient en capacité très rapidement, sans que l'État lui demande, de transformer ses chaînes de production de parfums en chaîne de production de gel hydroalcoolique. Sauf qu'aujourd'hui, vous savez, c'est la grande débrouille en France. On a l'impression que l'État est tétanisé, est incapable de prendre des mesures, si ce n'est que de fermer les marchés. Aujourd'hui, la question, c'est... On a des entreprises qui sont capables, on a des entreprises textiles, on a des entreprises de la chimie, qui sont capables de réorienter très rapidement leur production. Et donc, il y a des possibilités. Encore faut-il le faire suffisamment tôt, parce que là, quand même, mobiliser des avions cargo pour aller chercher des masques en Chine, et c'est quelques millions qui arrivent par jour. Vous savez qu'aujourd'hui, on manque massivement de masques pour nos collègues en ville, nos collègues libéraux, infirmiers, médecins, et dans les EHPAD. Pour chaque jour, pour ces personnels, c'est 2 millions de masques qu'il faudrait. On en amène 4,5 millions par avion cargo. Ça veut dire qu'on tient 2 jours pour les EHPAD et pour les personnels de santé.
Merci.
C'est pas sérieux.
Merci beaucoup, docteur Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Merci d'avoir pris quelques minutes ce matin pour les auditeurs d'Europe 1.
L'Agence du médicament alerte sur une trentaine d'effets indésirables graves signalés, dont 3 décès chez des malades du coronavirus traités par du plaquenil, donc de l'hydroxychloroquine. Ce genre de traitement ne doit en aucun cas être pris en automédication, ni même sur prescription d'un médecin de ville. C'est cette agence, la NSM, qui le précise.
Un nouveau changement des règles du confinement, on vient de l'évoquer. Les marchés étaient fermés depuis une semaine. Voilà que les dérogations sont assouplies. 2500 marchés alimentaires vont pouvoir rouvrir, soit un marché sur 4 en France.
Un travail de fond a été fait pour avoir les meilleures pratiques sanitaires possibles, mais cette réouverture des marchés était absolument indispensable pour les producteurs agricoles, selon Monique Rubin de la Fédération nationale des marchés de France.
Si on n'était pas dans cette crise aussi dramatique que celle que l'on vit, je sauterais de joie. C'est non seulement un soulagement, c'est réellement la possibilité pour les producteurs de pouvoir écouler leur production, parce que ça, c'est quand même dramatique pour eux. Donc, on devait apporter toutes les possibilités de sécurisation pour la population et pour les commerçants. Il faut qu'il y ait un espace entre l'étal du commerçant et le consommateur d'1 mètre. Il faut que, entre chaque consommateur, il y ait un espace de 1 mètre à 1,50 mètre. On met des petits scotch par terre, on met des ficelles, on met des cagettes tous les mètres. Il faut pas se toucher. Vous savez, le marché, il existe depuis que le monde est monde, et on doit préserver impérativement nos activités. On ne veut pas mourir, et les marchés vont continuer à vivre justement en travaillant de façon très rigoureuse.
Monique Rubin, jointe par Marion Gauthier pour Europe 1. 1 milliard d'euros, c'est la baisse de chiffre d'affaires estimée par Aéroports de Paris, contraint de suspendre l'activité d'Orly à partir de ce soir. Augustin de Romanet, PDG d'ADP, invité d'Europe 1 ce matin, précise avoir lancé un plan d'économie de façon à essayer de préserver au maximum notre indépendance, dit-il, et essayer de ne pas abuser des aides publiques.
Et sur le plus long terme, selon lui, écoutez bien, l'époque où chaque week-end on va dans une ville européenne pour un voyage à 49,99 € va peut-être être un tout petit peu revisité.
De son côté, Air France KLM a réduit de près de 90% ses vols, à tel point qu'un sauvetage de la compagnie est préparé en ce moment par l'État français. Emmanuel Dutheil.
Il faut agir vite et bien, voilà ce que l'on dit au ministère de l'économie, où on affirme en coulisses être prêt à un gros effort. Pour cela, il faut trouver un accord avec l'État néerlandais, également au capital du groupe. Les négociations sont intenses et se passent bien. On a mis de côté nos divergences nées de la montée au capital sauvage des Néerlandais pour se concentrer sur l'urgence. Et l'urgence, c'est d'apporter de l'argent frais à Air France KLM tout de suite et de préparer le long terme. On travaille sur les 2 horizons, nous a-t-on confié. Concrètement, ce qui semble se préparer, ce sont des prêts garantis pour passer l'urgence. Et dans un deuxième temps, une montée au capital d'Air France KLM des 2 États. Ça apportera de l'argent frais, mais combien faut-il ? La grosse inquiétude de l'État, c'est de savoir quand la compagnie pourra redémarrer. Si les États-Unis sont bloqués pendant des mois, ça va être dur. On est face à un défi historique, note un bon connaisseur du dossier.
En politique, une journée particulière à l'Assemblée nationale. Nous sommes mardi, les questions au gouvernement se tiennent, mais avec seulement 8 députés physiquement dans l'hémicycle, 1 par groupe.
Et demain commencera une mission d'information pour contrôler les mesures du gouvernement contre la crise. Édouard Philippe et le ministre de la Santé, Olivier Véran, seront auditionnés. Les précisions de Claudia Bertram.
L'Union nationale est chaque jour un peu plus mise à mal, mais tous les partis politiques vont contrôler ensemble l'action du gouvernement. Tout le monde doit être dans la barque, glisse un proche de Richard Ferrand. Côté majorité, pas question d'en faire une mission à charge, mais ce sera bien dans une optique de contrôle où tous les aspects de la crise seront abordés, assure un cadre. L'opposition, elle, a bien l'intention de ne rien laisser passer au gouvernement. LR compte en profiter pour faire remonter les remarques très concrètes du terrain. Et la gauche fait déjà monter la pression. Il y a le risque que cette mission soit verrouillée par la majorité. Elle pourrait alors trouver ses limites, estime un dirigeant communiste qui complète. On y va sans a priori, mais si c'est du flan, on le fera savoir. Autre limite pointée par l'opposition, les prérogatives de cet outil parlementaire. Il ne donne pas assez de pouvoir pour contrôler pleinement le gouvernement, déplore-t-on au Parti Socialiste. Un élu insoumis est catégorique. Il faut qu'elle débouche très vite sur une commission d'enquête. C'est indispensable.
On parle encore ce matin d'un virus chinois, mais celui-ci est informatique. En pleine pandémie de Covid-19, des groupes de pirates s'en prennent à la France. Nous sommes le troisième pays le plus touché en ce moment, selon les informations d'Europe 1.
Il y a quelques jours seulement, c'est l'assistance publique hôpitaux de Paris qui était visée. Vous imaginez bien qu'ils ont autre chose à faire à la PHP. Mais d'autres attaques sont en cours, profitant des failles du télétravail pour infiltrer les entreprises. Guillaume Biais, qui sont ces hackers ?
Alors ils sont nombreux, hein. Ce sont des armées de pirates informatiques, mais les principaux sont connus, ils sont majoritairement chinois, russes et iraniens. Ils agissent aussi bien pour le compte de leur État que pour leur propre intérêt et ils ont un objectif essentiel, faire tomber notre système, explique Édouard Janson, responsable sécurité de Capgemini France.
En attaquant les infrastructures vitales, en attaquant les entreprises, en attaquant notre système d'information, le but c'est de créer une surcrise à la crise déjà existante. Donc il y a plein d'attaques possibles qui peuvent avoir lieu et le télétravail peut être un accès. Il faut faire extrêmement attention sur quoi on clique et sur ce qu'on utilise à son domicile. Alors c'est clair, c'est pas évident. Vous êtes en train de bosser, votre enfant vient vous demander un exercice de maths, vous repassez sur un mail perso et vous re-switchez sur un truc professionnel. Mais il faut faire très attention sur quoi on clique parce que cette déconcentration, entre guillemets, peut ouvrir des brèches qui permettent après aux pirates d'accéder au système d'information de votre entreprise et les voler ou les pirater.
Et pour cela, les hackers déploient les grands moyens. Des dizaines de milliers d'adresses internet frauduleuses et de pièces jointes vérolées circulent depuis 3 semaines avec tout un point commun, le mot « Covid » pour vous inciter à cliquer et infiltrer votre système.
Guillaume Biais du service police-justice d'Europe 1.
À l'échelle mondiale, on estime que 3,4 milliards de personnes sont aujourd'hui confinées. C'est 44% de la population de la Terre. À New York, un navire hôpital est arrivé hier, 12 blocs opératoires et 1000 lits à son bord.
Situation très préoccupante aussi en Iran, qui fut un temps le deuxième pays le plus touché au monde. On en est à 2700 morts, mais ce bilan officiel est peut-être sous-estimé. L'épidémie progresse, les pouvoirs publics semblent dépassés, Vincent Hervouet.
Tous les pays sont contaminés, tous les gouvernements contestés, mais l'Iran est à part. C'est l'un des plus touchés et le seul en quarantaine. C'est la double peine. Le coronavirus n'a pas levé les sanctions américaines. Les Iraniens ne peuvent pas importer de médicaments. Leurs hôpitaux sont délabrés. Il y en a même qui ont cru se soigner en avalant du méthanol. Le remède a fait des centaines de morts, peut-être des milliers. D'autres ont recours aux charlatans enturbannés. Le gouvernement n'a pas osé fermer tout de suite l'épicentre de l'épidémie, la ville des pèlerins, Rome. Il n'ose pas confiner la population, l'économie est exsangue. Et du coup, les ultra-conservateurs l'accusent d'être trop lent, trop mou, trop faible. Le gouvernement, comme un réflexe, dénonce le terrorisme médical des États-Unis.
Oui, d'ailleurs, le guide suprême iranien a rejeté la main que lui tendait Donald Trump.
L'Amérique est Satan, tout est permis à ceux qui combattent l'impérialisme. Ça fait 40 ans que la République islamique répète cette rengaine, 40 ans que l'Iran prend des otages, hier les diplomates américains, ensuite les otages français au Liban, aujourd'hui Fariba Adelka, la chercheuse détenue depuis 300 jours pile. Elle, c'est la triple peine. Elle est innocente comme tous les otages, et otage parce qu'elle est française. Elle est menacée de contamination en plus d'une condamnation. Et 100 000 détenus ont été libérés pour le nouvel an et elle reste entre quatre murs. Elle garde bon moral. Son courage est une leçon pour nous tous qui nous sentons enfermés.
Le regard international de Vincent Hervouet, c'est tous les jours dans le journal de 8 heures d'Europe 1. Invité d'Europe 1 il y a une demi-heure, la ministre espagnole des Affaires étrangères pour qui les mesures prises dans son pays commencent à porter leurs fruits. Mais il ne faut pas baisser la garde. Arantxa Gonzalez appelle à un déblocage de budget plus important de la part de l'Union européenne.
Et nous allons terminer avec ces matériaux de la vie quotidienne qui ont des vertus très précieuses contre les virus.
Oui, c'est ce que montre la recherche de l'Agence spatiale européenne. européenne. Depuis 2 ans, des chercheurs en Allemagne travaillent sur des surfaces spéciales qui tuent les bactéries. Ils espèrent qu'elles puissent être aussi efficaces contre le coronavirus lors d'Autriche.
Ces scientifiques de Sarrebruck et de Cologne travaillent sur des matériaux du quotidien, l'argent et le cuivre que l'on retrouve sur les poignées de porte ou sur les boutons dans l'ascenseur et qui sont partout dans les lieux publics. Avec une nouvelle technologie de laser très puissant, ils ont réussi à transformer la surface du cuivre. Dès que l'on touche l'objet avec notre main, toutes les bactéries meurent immédiatement. Impossible donc de les transmettre d'une personne à une autre. Et cette technologie devrait aussi éliminer les virus, explique Matthias Maurer, astronaute de l'Agence spatiale européenne et scientifique spécialiste des matériaux.
Les premiers tests qu'on a faits, on peut prouver que c'est aussi efficace contre les virus. J'espère bien dans 1, 2, 3 ans, peut-être il y a des premiers produits sur le marché. J'espère peut-être les boutons dans la métro ou les poignées dans les hôpitaux.
L'an prochain, des échantillons de cuivre et d'argent seront emportés dans la Station spatiale internationale pour des tests. Les astronautes confinés dans l'ISS doivent aujourd'hui utiliser des produits chimiques pour supprimer les bactéries à l'intérieur de la station. Si ces matériaux étaient utilisés, ils n'auraient plus besoin de produits chimiques.
Les précisions de notre astronaute maison, Laure d'Autriche.
Merci beaucoup. Vous dites astronaute, vous, François Geffrier ?
Vous, spationaute, taïkonaute.
Je sais qu'il y a débat à chaque fois. Cosmonaute, bon, pourquoi pas. Merci François Geffrier, c'est le journal de 8h. Et à 8h16, nous retrouvons Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia, votre invitée.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Notre invité sur Europe 1, c'est Jean-Guy Talamoni, le président de l'Assemblée de Corse. Où en est l'épidémie sur l'île ? L'exécutif corse qui pourrait saisir la justice pour obtenir plus de tests et de la chloroquine. Entretien à suivre.
Peut-être comme en Guadeloupe, nous étions en ligne avec Elie Domota. Tiens, je pose la question aux Français qui nous écoutent en Corse, en Guadeloupe ou ailleurs, bien sûr. Est-ce qu'il y a une inégalité selon les territoires à vos yeux ? Appelez maintenant pour échanger avec Jean-Guy Talamoni, 3921 et le hashtag Radio Ouverte. A tout de suite.